Chapitre 21. Un soir, pendant le dîner, Malia m'a demandé ce que j'avais l'intention de faire pour les tigres. « Qu'est-ce que tu veux dire, ma chérie ?»«
Bah, tu sais que c'est mon animal préféré. »
Plusieurs années auparavant, alors que nous passions comme toujours Noël à Hawaï, ma sœur Maya avait emmené Malia, alors âgée de 4 ans, visiter le zoo de Honolulu. C'est un endroit charmant, blotti entre la plage de Waikiki et le volcan Diamond Head. J'y ai passé des heures durant mon enfance, à grimper au tronc des banyans, à nourrir les pigeons qui se promenaient sur l'herbe et à hurler sur les gibbons suspendus par leurs longs bras aux charpentes en bambou. Pendant la visite, Malia avait été fascinée par un des tigres et sa tante lui avait acheté un petit félin en peluche à la boutique de souvenirs. Tiger avait de grosses pattes, un ventre tout rond et un mystérieux sourire de joconde. Et Malia et lui étaient devenus inséparables, même s'il faut bien dire que lorsque nous nous sommes installés à la Maison Blanche, sa fourrure était un peu clairsemée et l'animal avait survécu à plusieurs catastrophes alimentaires, de multiples lavages, à un bref enlèvement par un cousin taquin, sans compter toutes les fois où il avait failli être perdu lors de soirées pyjama. J'avais un faible pour Tiger.
Donc, a poursuivi Malia, j'ai fait un exposé sur les tigres à l'école, et leur habitat est en train de disparaître parce que des gens coupent les forêts. Et c'est de pire en pire parce que la planète se réchauffe à cause de la pollution. En plus, il y a des gens qui les tuent pour vendre leur fourrure, leurs os et tout. Donc les tigres sont en voie d'extinction et c'est horrible. Tu devrais essayer de les sauver vu que t'es le président.
Tu devrais essayer de faire quelque chose, a appuyé Sacha.
Je me suis tourné vers Michel qui a haussé les épaules en disant
« Elles ont raison, c'est toi le président ».
En vérité, j'étais heureux que mes filles n'hésitent pas à pointer du doigt la responsabilité des adultes dans la sauvegarde de la planète. Bien que j'ai passé ma vie en ville, un grand nombre de mes meilleurs souvenirs sont liés à la nature. C'est en partie le résultat de mon enfance à Hawaï, où les promenades sur le flanc de montagnes luxuriantes et les après-midi à glisser sur des vagues turquoises étaient notre quotidien. Nous n'avions qu'à pousser la porte de chez nous. Ces plaisirs ne coûtaient rien, n'appartenaient à personne et étaient accessibles à tous. Plus tard, en Indonésie, les moments que j'ai passés à courir dans les rizières pendant que des buffles d'eau me regardaient, le museau couvert de boue, ont renforcé mon amour des grands espaces. Et que dire des voyages de mes 20 ans, un âge où, sans attache et grâce à une grande tolérance aux hébergements miteux, j'ai eu la chance de pouvoir randonner dans les Appalaches, descendre le Mississippi en canoë et regarder le soleil se lever au-dessus du Serengeti. C'est ma mère qui a ancré ce penchant en moi. Elle aimait la nature dans toute sa splendeur. Le squelette d'une feuille, le labeur d'une fourmilière, l'éclat d'une pleine lune, avec le même émerveillement et la même humilité que certains réservent à la pratique religieuse. Et durant notre jeunesse, elle nous a appris, à Maya et à moi, les dégâts que peuvent causer les humains négligents lorsqu'ils construisent des villes, extraient du pétrole ou se débarrassent de leurs déchets.
« Bear, ne jette pas tes emballages par terre !»
Elle nous a aussi fait remarquer que ces dégâts affectent surtout les pauvres, qui ne choisissent pas l'endroit où ils vivent, et sont donc plus vulnérables à la pollution de l'air ou à la contamination de l'eau. Mais si ma mère était écologiste dans l'âme, je ne me souviens pas qu'elle ait jamais repris ce terme à son compte. Sans doute parce qu'elle a travaillé presque toute sa vie en Indonésie, où les effets de la pollution étaient éclipsés par d'autres périls plus pressants, en premier lieu la faim. Pour des millions de villageois, vivant difficilement dans les pays en développement, l'installation d'un générateur électrique à charbon ou d'une nouvelle usine vomissant de la fumée représentait le meilleur moyen de s'en sortir financièrement tout en s'arrêtant de se tuer à la tâche. Pour tout cela, la préservation de paysages immaculés et d'une faune exotique était un luxe que seuls les Occidentaux pouvaient se permettre. « On ne sauve pas les arbres en ignorant les gens », aurait dit ma mère. Je n'ai jamais perdu de vue que, pour la majorité de la population, l'environnement passe après la satisfaction des besoins vitaux. Des années plus tard, devenu militant associatif, j'ai aidé à mobiliser des occupants de logements sociaux sur la question du désamiantage de leur quartier. Lors des élections sénatoriales de l'Illinois, le vote que j'incarnais était suffisamment vert pour obtenir le soutien des écologistes de la League of Conservation Voters. Une fois au Capitole, j'ai critiqué le gouvernement Bush pour ses tentatives d'alléger diverses lois anti-pollution et défendu les efforts de préservation des Grands Lacs. Mais à aucun moment de ma carrière politique, je n'ai placé les questions environnementales au premier plan. Non parce qu'elle me semblait accessoire, mais parce que pour mon électorat, issu en grande partie des classes populaires, la qualité de l'air et les rejets industriels passaient après le logement, l'éducation, la santé et l'emploi.
je me disais que quelqu'un d'autre s'occuperait des arbres. La réalité de plus en plus pressante du réchauffement climatique m'a forcé à envisager les choses différemment. Chaque année, les prévisions semblaient empirer du fait d'un nuage toujours plus gros de dioxyde de carbone et autres gaz à effet de serre rejetés par les centrales énergétiques, l'industrie, les voitures, les camions, les avions, l'élevage intensif, la déforestation et toutes les autres manifestations de la croissance et de la modernisation qui faisaient exploser tous les records de température. Au moment de ma campagne présidentielle, le consensus au sein de la communauté scientifique était que, en l'absence d'une action internationale ambitieuse et coordonnée pour réduire nos émissions, les températures globales étaient vouées à augmenter de 2 degrés en quelques décennies. Au-delà, nous nous exposions à une accélération de la fonte des glaces, à la montée des océans et à des climats extrêmes, sans retour possible à la normale. Difficile de prédire le bilan humain d'un bouleversement climatique rapide. Mais les estimations les plus fiables dessinaient un mélange infernal d'inondations dans les régions côtières, de sécheresses, d'incendies et de tempêtes, qui feraient des millions de déplacés et laisseraient la majorité des gouvernements impuissants. Une situation qui, à son tour, aggraverait le risque de conflits mondiaux et de maladies colportées par des insectes. En lisant la littérature consacrée à ce sujet, je visualisais des caravanes d'âmes perdues, errant sur une terre craquelée en quête de sol arable, des catastrophes de l'ampleur de l'ouragan Katrina frappant régulièrement tous les continents, des nations insulaires englouties par la mer. Je me demandais ce qu'il adviendrait de Hawaï, des grands glaciers d'Alaska et de la Nouvelle-Orléans. J'imaginais Malia, Sacha et mes petits-enfants vivant dans un monde plus dur et plus dangereux, dépouillé de tant de paysages que j'avais crus éternels dans ma jeunesse. Si j'aspirais à devenir le leader du monde libre, j'allais devoir faire du climat une priorité de ma campagne et de ma présidence. Mais comment ? Le réchauffement climatique est un problème face auquel les gouvernements sont notoirement mauvais, car il exige la mise en œuvre immédiate de politiques neuves, coûteuses et impopulaires, afin de prévenir des crises futures. Grâce au travail accompli par quelques rares dirigeants clairvoyants, comme l'ancien vice-président Al Gore, récompensé par un prix Nobel de la paix pour ses actions de sensibilisation et qui continuait à lutter pour contenir le réchauffement climatique, les consciences s'éveillaient peu à peu. Les électeurs les plus jeunes et les plus progressistes étaient tout particulièrement réceptifs aux appels à l'action. Hélas, des groupes d'intérêts démocrates majeurs, notamment les grands syndicats industriels, s'opposaient à toutes les mesures environnementales susceptibles de menacer l'emploi dans leurs branches. Et à en croire les sondages commandés au début de ma campagne, le réchauffement climatique était un sujet de préoccupation très mineur pour les électeurs démocrates. Quant aux républicains, ils étaient encore plus sceptiques. Autrefois, les deux partis reconnaissaient que le gouvernement fédéral avait un rôle à jouer dans la protection de l'environnement. Richard Nixon avait même travaillé main dans la main avec un congrès à majorité démocrate pour fonder l'Agence pour la protection de l'environnement, EPA, en 1970. George H.W. Bush avait soutenu le durcissement du Clean Air Act, la loi contre la pollution atmosphérique, en 1990. Mais cette époque était révolue. Tandis que la base électorale du parti migrait vers le sud et l'ouest, des régions où les compagnies pétrolières et minières, les promoteurs immobiliers et les éleveurs n'avaient toujours pas digéré les mesures fédérales de préservation de l'environnement, le GOP avait fait de cette thématique un nouveau front dans la guerre culturelle que se livraient les deux partis. Les médias conservateurs dépeignaient le réchauffement climatique comme une mystification nuisible pour l'emploi et inventée de toutes pièces par des extrémistes amoureux des arbres. Les supermajors du pétrole investissaient des millions de dollars dans des think tanks et boîtes de communication, ayant pour seule mission de dissimuler la réalité. À l'inverse de son père, George W. Bush minimisait les preuves du réchauffement et refusait de s'impliquer dans un effort international de limitation des gaz à effet de serre, alors que, durant la première moitié de sa présidence, les États-Unis en étaient le premier émetteur mondial. Enfin, du côté des républicains au Congrès, admettre la réalité d'un changement climatique provoqué par l'homme suffisait à éveiller les soupçons des militants, et les parlementaires suggérant une inflexion politique en ce sens se retrouvaient battus en brèche aux primaires suivantes. « On est comme les démocrates anti-avortement », m'a dit un jour avec tristesse un ancien collègue, un sénateur républicain qui se distinguait par ses positions pro-environnementales. « On est en voie d'extinction ». Confrontés à ces réalités, mon équipe et moi avons fait notre possible pour mettre l'accent sur le réchauffement climatique pendant la campagne, tout en veillant à ne pas perdre trop de voix. Dans l'optique de réduire les gaz à effet de serre, Je me suis très tôt prononcé pour un système de plafonnement et d'échange des droits d'émission, sans toutefois entrer dans des détails que mes futurs adversaires se seraient empressés de retourner contre moi. Lors des meetings, je minorais l'incompatibilité de la croissance économique avec la lutte contre le réchauffement et j'insistais sur les bénéfices non environnementaux d'une efficacité énergétique accrue, telle la possibilité de réduire, à terme, notre dépendance au pétrole importé. Enfin, manière de faire un appel du pied aux centristes, je promettais une politique énergétique tous azimuts dans le cadre de laquelle l'extraction de pétrole et de gaz continuerait sur notre territoire pendant que nous préparerions la transition vers des énergies non polluantes, et je m'engageais à ce que des financements soient accordés à l'éthanol, au charbon propre et à l'énergie nucléaire, des positions impopulaires auprès des écologistes, mais très importantes dans les États les plus indécis. Mon gentil discours sur le passage sans douleur à un avenir décarboné a fait râler certains milieux écologistes. Ils espéraient que j'annoncerais des sacrifices et des choix difficiles, dont un moratoire sur les forages pétroliers et gaziers, voire une interdiction pure et simple, pour combattre cette menace majeure. Dans un monde parfaitement rationnel, cela aurait été sensé. Dans le monde réel et hautement irrationnel de la politique américaine, mon entourage et moi étions quasiment certains que me lancer dans des scénarios apocalyptiques serait une mauvaise stratégie électorale. « On ne fera rien pour protéger l'environnement », avait rétorqué Plouffe à un groupe de militants qui l'interrogeait, « si on perd l'Ohio et la Pennsylvanie. » Avec une économie en chute libre, l'intérêt pour le réchauffement climatique s'est encore étiolé après l'élection. Pour citer Axe, les gens qui se font saisir leur maison en ont rien à foutre des panneaux solaires. Et la presse a commencé à sous-entendre que nous allions discrètement faire passer ces questions au second plan. Pourtant, cette idée ne m'a jamais traversé l'esprit, signe de la présomption dont je faisais preuve à l'époque et de la gravité du sujet. Bien au contraire, j'ai demandé à RAM de hisser le climat au même niveau de priorité que la santé et de réunir une équipe capable de porter nos objectifs. Pour commencer, nous avons persuadé Carol Browner, qui avait dirigé l'EPA sous Clinton, d'accepter le poste de tsar climatique que nous venions de créer pour coordonner l'action des agences clés. Grande et élancée, dégageant un mélange attachant d'énergie nerveuse et d'enthousiasme, Carol bénéficiait d'une connaissance approfondie de ses problématiques, de contacts au Capitole et d'une forte crédibilité au sein des principales associations écologistes. J'ai nommé à la tête de l'EPA Lisa Jackson, une ingénieure chimiste afro-américaine qui avait travaillé pendant 15 ans pour l'agence avant de devenir commissaire à la protection environnementale dans le New Jersey. Avec son charme et l'humour tranquille hérité de sa Nouvelle-Orléans natale, elle savait naviguer en politique. Pour mieux comprendre les défis scientifiques associés à la transformation du secteur énergétique américain, nous nous appuyons sur mon secrétaire à l'énergie, Stephen Chu, un physicien nobélisé de l'université de Stanford, qui avait auparavant dirigé le célèbre laboratoire national Lawrence Berkeley. Avec ses lunettes cerclées de fer et son air sérieux, quoique légèrement distrait, Stephen incarnait le parfait scientifique, et les conseillers de la Maison-Blanche ont plus d'une fois été obligés de le chercher partout, parce qu'il avait oublié son emploi du temps et était parti se balader juste avant une réunion. Il était néanmoins aussi intelligent que le laissait deviner son CV, et il avait un don pour expliquer des notions extrêmement pointues à des êtres au cerveau moins dimensionné que le sien, comme moi. Avec Carol en pointe, notre groupe de spécialistes a proposé un plan d'action comprenant, entre autres, un plafonnement ferme des émissions de CO2 qui, à condition qu'il soit accepté, réduirait nos émissions de gaz à effet de serre de 80% d'ici à 2050. Ce ne serait pas suffisant pour maintenir les températures mondiales sous la barre des 2 degrés supplémentaires, mais au moins cela lancerait la machine et poserait les bases de futures mesures plus agressives. Sans compter que fixer ces objectifs ambitieux mais réalisables mettrait les États-Unis en position d'inciter les autres grands pollueurs du monde, et en premier lieu la Chine, à nous emboîter le pas. Nous avions en ligne de mire la négociation et la signature d'un accord international sur le climat avant la fin de ma présidence. Dans cette optique, nous avons profité du Recovery Act pour commencer à transformer le secteur de l'énergie avec des investissements en recherche et développement qui entraîneraient une importante baisse du coût du solaire et de l'éolien. Notre calcul était simple. Pour atteindre notre objectif de réduction des émissions, nous allions devoir sevrer l'économie américaine de sa dépendance aux carburants fossiles, et nous n'y parviendrions pas sans solutions alternatives efficaces. Il faut garder à l'esprit que, en 2009, les voitures électriques étaient encore des gadgets. Les panneaux solaires ne s'adressaient qu'à un marché de niche, et le solaire et l'éolien ne représentaient qu'une part infime du mix énergétique américain, à la fois parce qu'ils étaient toujours plus chers que le pétrole et le charbon, et parce que des questions légitimes persistaient quant à leur fiabilité en l'absence de soleil ou de vent. Les experts estimaient que leur coût continuerait à diminuer avec la mise en service de générateurs propres et que le problème de la fiabilité serait résolu par le développement de batteries aux capacités de stockage accrues. Mais pour construire de nouvelles centrales énergétiques et pour financer ces recherches, il fallait beaucoup d'argent. Or, les investisseurs privés, aussi bien que les grands fournisseurs, semblaient trouver que c'était un pari risqué. Surtout à un moment où les acteurs de l'énergie non polluante, même les plus prospères, menaçaient de mettre la clé sous la porte. Le fait est que tout le secteur des énergies renouvelables, depuis les constructeurs de véhicules sophistiqués jusqu'aux producteurs de biocarburants, était confronté au même dilemme. Malgré les qualités de ces technologies, il évoluait dans une économie qui, depuis plus d'un siècle, s'était constituée autour du pétrole, du gaz et du charbon. Ce handicap structurel n'était pas un simple effet du libéralisme. Aussi bien les collectivités locales que le gouvernement fédéral avaient investi des milliers de milliards de dollars au travers de subventions et de réductions d'impôts ou en construisant des pipelines, autoroutes et terminaux portuaires afin de maintenir une offre stable et une demande constante de carburants fossiles à bas coût. Les compagnies pétrolières comptaient parmi les entreprises les plus rentables du pays, mais cela ne les empêchait pas de toucher chaque année des millions de dollars sous la forme d'exonérations fiscales. Pour être compétitives, les énergies non polluantes allaient avoir besoin d'un sacré coup de pouce. C'est à cela que devait servir le Recovery Act. Sur les 800 milliards de dollars du plan de relance, nous en avons alloué plus de 90 à des démarches énergétiques innovantes aux quatre coins du pays. En l'espace d'une année, une usine d'appareils ménagers dans l'Iowa, que j'avais visitée durant ma campagne et qui avait été fermée à cause de la récession, a recommencé à fourmiller d'ouvriers fabriquant des turbines dernier cri. Nous avons financé la construction d'une des plus grandes fermes éoliennes au monde. Nous avons soutenu le développement de nouveaux modèles de batteries et préparé le marché à l'arrivée de camions, bus et voitures hybrides et électriques. Nous avons commandité des programmes permettant d'améliorer la performance énergétique des bâtiments et des commerces et, en collaboration avec le Trésor, nous avons temporairement converti le crédit d'impôt fédéral sur l'énergie propre en un mécanisme de financement direct. Au sein du département de l'énergie, le Recovery Act nous a servi à lancer l'Agence pour la recherche avancée des projets en matière d'énergie, ARPA-E, un programme de recherche à risque et rendement élevé, conçu sur le modèle de la célèbre DARPA qui avait été créée par la Défense après le lancement du satellite Sputnik et avait contribué à développer non seulement des systèmes militaires contre la technologie furtive, mais aussi les premières moutures du réseau Internet, de la reconnaissance vocale et du GPS. Tout cela était passionnant, même si nous savions très bien que dans notre course aux avancées décisives, certains investissements du Recovery Act ne donneraient rien. L'échec le plus monumental est lié à l'extension d'une politique de prêt, instaurée sous Bush, par le biais de laquelle le département de l'énergie fournissait de la trésorerie à des acteurs prometteurs de l'énergie propre. Dans l'ensemble, ce programme a eu un bilan impressionnant et il a aidé des entreprises comme le constructeur automobile Tesla à franchir des caps cruciaux. Le taux de base très avantageux des prêts consentis, 3%, reflétait l'idée que les succès de ce fonds compenseraient amplement ces quelques échecs. Hélas, c'est sous mon mandat que s'est produit un de ses plus gros ratés. Un prêt gigantesque de 535 millions de dollars à Solyndra, un fabricant de panneaux solaires qui avait fait breveter une technologie qu'il estimait révolutionnaire. Naturellement, cet investissement n'était pas sans risque, et lorsque les Chinois ont inondé le marché avec des panneaux peu chers car très subventionnés, Solyndra a commencé à battre de l'aile avant de plonger en 2011. Étant donné l'ampleur de ce fiasco, sans parler du fait que mon staff m'avait organisé une visite de l'usine juste avant que les premiers voyants ne passent au rouge, Solyndra est devenu pour nous un véritable cauchemar. Son cas a fait la une des journaux pendant des semaines. Les Républicains exultaient. J'ai tâché d'encaisser sans broncher. Je me répétais que l'essence de la présidence voulait que rien ne se déroule jamais comme prévu. Même les initiatives couronnées de succès, bien exécutées et motivées par des intentions irréprochables, avaient généralement un vice caché ou un effet inattendu. Accomplir des choses, c'était s'exposer à la critique, tandis que l'inverse, jouer la sécurité, éviter les controverses, suivre les sondages, était non seulement l'assurance de la médiocrité, mais une trahison des espoirs de tous les citoyens qui avaient voté pour moi. Tout de même, je ne pouvais m'empêcher d'enrager. Parfois, j'imaginais même de la fumée qui sortait de mes oreilles comme dans les dessins animés, en constatant que l'échec de Solyndra éclipsait l'élan que le Recovery Act était parvenu à donner au secteur des énergies renouvelables. Dès sa première année, notre ruée vers l'énergie propre avait commencé à stimuler l'économie, à créer des emplois, à susciter un mouvement vers le solaire et l'éolien et des économies énergétiques considérables, ainsi qu'à mobiliser tout un arsenal de nouvelles technologies pour lutter contre le réchauffement climatique. J'ai prononcé des discours dans tout le pays pour expliquer ce que nous faisions, et j'avais envie de crier « ça fonctionne !» Mais, hormis les militants écologistes et les acteurs du secteur, personne n'en avait rien à faire. J'étais content lorsqu'un dirigeant me déclarait que, sans le Recovery Act, tout le solaire et tout l'éolien américain auraient probablement coulé. Toutefois, je me demandais combien de temps nous pourrions continuer à mener des politiques qui paieraient à long terme, mais dont le seul résultat était, pour l'heure, que nous prenions des coups sur la tête.